Morning Edition from NPR News.
Let's eat in San Quinto de House.
France Inter, le 18-20.
Désertification, appauvrissement, érosion, déforestation, surexploitation, les sols sont mis à rude épreuve. Et le saviez-vous, il y a une COP pour ça, la COP 15 qui se déroule depuis hier à Abidjan et qui doit trouver des solutions, quelques idées aussi bien sûr. On verra quels sont les enjeux de cette COP assez méconnue avec nos invités de ce soir. Le bruit du monde sur le même thème est en Irak où le désert grignote, où les tempêtes de poussière sont de plus en plus nombreuses. Vous allez le comprendre, vous allez voir très concrètement aussi quelles sont les conséquences de cette désertification. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Eugénie a donc trouvé l'épilogue de cette cavale en Oklahoma entre une gardienne et son prisonnier. Je vous préviens, ça finit pas bien. Il a aussi trouvé une marée noire en mer Rouge et un scandale en Allemagne car on n'emmène pas son fils en vacances dans un hélicoptère de l'armée. C'est en Allemagne que ça se passe. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four. Oh gauche, un discours de la reine sans la reine et un royaume désuni. Ça va mal de l'autre côté de la Manche. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabien Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Jean-Luc Schott.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes président du Comité scientifique français de désertification et vous êtes à Abidjan. Ça a évidemment tout son sens. Dans un instant, on rejoindra Rémi Emmerich, qui est délégué général d'une ONG qui s'appelle SOS Sahel. Jean-Luc Schott, je suis absolument sûr qu'il a échappé à beaucoup de gens qui nous écoutent, qu'il existe une COP désertification, encore plus qu'elle en est à sa 15e édition. À votre avis, comment ça se fait 15% des terres sont dégradées dans le monde. Est-ce que ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire en réalité?
Effectivement, je pense qu'on oublie que les services que rendent les sols, produire de la nourriture, du bois d'ouvrage, filtrer l'eau, maintenir la biodiversité, qu'elle soit aérienne ou souterraine, est un enjeu majeur et que ces fonctions-là, ce sont les sols qui les rendent et que lorsque l'on les dégrade, on perd une grande partie de la santé des sols et au détriment de notre propre santé. Effectivement, c'est... On oublie cette connexion avec la Terre que nous avons.
Mais je disais COP 15, est-ce que ça veut dire que ça fait 15 COP qu'on tape quasiment dans le vide, qu'on tape en tout cas dans une grande indifférence? Est-ce que vous diriez ça ou est-ce que vous diriez que cette petite sœur de la COP climat et la COP biodiversité, il trouve son compte aussi avec le, pardon de le dire comme ça, avec le ruissellement des autres COP?
En fait, on le voit de mon point de vue que les autres COP ont fait un pas vers la COP qui traite des terres et de la dégradation des terres. La COP climat a produit un document spécial sur la question des terres en relation avec le climat. Les terres jouent un rôle dans l'atténuation des changements climatiques. Et de la même façon, la COP biodiversité, enfin l'IPBES, traite des questions de dégradation des terres. Et donc la relation... Elle est vraiment fonctionnelle au quotidien. Et après, pourquoi cette COP elle paraît moins importante? Parce que je pense que l'ampleur des sujets qui ont été abordés, la question de mesurer la dégradation des terres est une question épineuse auquel la recherche apporte des connaissances. Alors que dire il faut éviter à juste titre d'augmenter les températures au-dessus de plus de 2 degrés, il faut pas... Ça parle à tout le monde, mais oublier qu'une grande partie de ce que nous consommons, nous en Europe, provient de ce qui a été produit ailleurs et que ça peut avoir des conséquences sur la dégradation des terres.
Parce que, disons-le clairement, là on parle surtout, alors on parle à tout le monde, hein, parce que au monde entier, 40% des terres sont dégradées dans le monde, mais c'est vrai qu'on parle spécifiquement à certaines zones qui sont des zones africaines, qui sont beaucoup plus rurales, où l'économie est beaucoup plus rurale aussi, et on se dit bêtement au fond, désertification et Afrique, oui, de tout temps, et ça a toujours été comme ça. Il y a, disons-le clairement, monsieur Schott, il y a cette forme de cynisme, non ?
En fait, le mot désertification est un mot qui a à la fois du sens et à la fois un peu piégeux, si vous le permettez. On peut penser que c'est l'avancée du désert. C'est pas du tout ça. C'est le processus qui conduit à la dégradation des terres. Simplement, la Convention a souhaité mettre l'accent sur les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. Et je dirais que dans certaines parties de l'Europe, il y a ces zones arides, semi-arides et subhumides sèches. Et donc, dans ces zones-là, on parle de désertification. Dans d'autres zones, on parle de dégradation des terres. Mais les populations qui vivent dans les terres dégradées ou les terres de ces zones climatiques particulières, elles sont directement impactées par la perte de productivité, la perte de biodiversité Et donc, il y a un enjeu majeur à restaurer les terres dégradées et à éviter que les terres se dégradent encore plus.
Mais alors, quel est l'enjeu, cette fois, Jean-Luc Chotte, à part, il va y avoir ce qu'on sait déjà, qui s'appellera une déclaration d'Abidjan, qui semble pour l'instant assez peu concrète, pour que ça marche, pour que ça réussisse, pour qu'on sorte de cette COP en se disant, je me souviendrai qu'il y a eu une COP 15 et elle compte, il faut sortir avec quoi ?
Je pense qu'on peut déjà se souvenir des COP précédentes par le simple fait que en 2015, l'agenda des Nations Unies a mis, sur la table la cible de tendre vers un monde neutre en termes de dégradation des terres. Mmh. Et c'est typiquement faire référence à cette COP désertification dégradation. Et si l'on se souviendra de cette COP, c'est qu'on aura abouti à des accords sur la question du foncier. Mmh. On ne peut pas engager la restauration des terres ou éviter que les terres se dégradent sans prendre en compte les droits d'usage et ou les droits de propriété dans certaines parties du monde sur le long terme pour que les actions qui sont soutenues par des financements privés ou des financements publics s'inscrivent dans le long terme. Ça, c'est le premier point. Et que l'on va pouvoir aussi aider les États à mettre en place des aménagements territoriaux pour lutter contre la dégradation des terres dans leur propre pays, dans des endroits qui sont fortement dégradés ou dans des endroits qui sont très vulnérables.
Parce que les causes réellement de cette dégradation, Jean-Luc Chotte, comment on les partage entre ce qui relève du phénomène naturel et ce qui est vraiment du phénomène humain ? Comment on partage ce qui est du manque de pluie, tout simplement, de la sécheresse, de la surexploitation, de la mauvaise exploitation ? Comment les choses se partagent selon vous ?
La première des causes est une mauvaise utilisation pour des mauvais usages, une intensification, pas maîtrisée, de l'usage des terres par des activités humaines non appropriées dans les contextes particuliers que se trouvent toutes les régions du monde. Mmh. Se surimpose à cette action de l'homme, aujourd'hui de plus en plus très très clair, les changements climatiques avec à la fois une modification des températures, une modification des régimes pluviométriques ou des pluies. Et donc on est dans des zones qui sont déjà dégradées et on est dans des zones dont les processus de dégradation, de désertification sont amplifiés par les changements climatiques, par l'augmentation de la population, l'augmentation des besoins. Et qu'il soit dans les zones où l'on produit, mais aussi dans les zones où les consommateurs importent des produits qui sont produits dans d'autres zones. Donc, on a cet ensemble de choses qui fait que les terres, sont au centre des deux autres conventions. Et on le voit bien de mon point de vue avec ce qui s'est passé à la Convention climat et ce qui est en train de se passer à la Convention biodiversité, qui a pour objectif de protéger... De mettre en place des aires protégées. Et quand on met en place des aires protégées, on protège les terres et les sols.
Souvent, Jean-Luc Chotte, le plus souvent d'ailleurs, on dit haro sur l'agriculture, parce que la déforestation, c'est l'agriculture, parce que la surexploitation, c'est l'agriculture. Est-ce que c'est trop facile de le dire ? Est-ce que c'est surtout trop facile de le dire d'une manière générale ? Là, cette COP-là a lieu à Abidjan, sur un continent qui est évidemment toujours un continent rural, où l'agriculture joue encore un rôle très important. Donc là encore, haro sur l'agriculture, ou pas, et surtout, où est-ce qu'on dit haro sur l'agriculture ?
Bien évidemment, la question de l'exploitation de l'agriculture ou la forêt un mauvais usage des apports, des intrants chimiques qui sont mal maîtrisés vont dans un premier temps contribuer à une augmentation de la productivité à chaque parcelle, mais au final, si l'on ne prend pas en compte la nécessité de restaurer le sol, de le maintenir, on arrive à cette situation où les sols produisent moins. Donc, il y a effectivement une mauvaise utilisation, il me semble que c'est l'un de vos termes, qui est à l'origine de ça. Mais pour quelle raison ? L'augmentation de la population, c'est pour ça que la question de la sécurité alimentaire est l'un des enjeux aussi de cette COP.
Absolument, la sécurité alimentaire, la survie aussi des espèces, dont la nôtre d'ailleurs, qui évidemment aussi, vous l'avez souligné, dépendent des terres. Vous allez rester avec nous, Jean-Luc Chaud. Je voudrais saluer Rémi Emmerich qui vient d'arriver. Bonsoir, monsieur Emmerich.
Bonsoir.
Vous êtes à Dakar, vous serez à Abidjan dès la semaine prochaine. Votre ONG s'appelle SOS Sahel. Elle est dans la région depuis 45 ans. Je voudrais qu'on... Vous êtes l'une des ONG qui travaille sur ce qu'on appelle la fameuse muraille verte, dont on parle depuis une grosse quinzaine d'années. C'est un projet magnifique et pharaonique de restauration de 100 millions d'hectares de terre, et ça va du Sénégal jusqu'à Djibouti. Il y a 11 pays qui sont impliqués, et en même temps, on a vraiment le sentiment que ça n'avance guère. Est-ce que vous pouvez me contredire, monsieur Emmerich, et me dire que oui, ça avance, et que peut-être cette COP permettra de faire avancer ce projet?
Ça avance, mais pas assez vite, bien évidemment. C'est vrai que ce magnifique projet de la Grande Muraille Verte, on aurait pu l'inventer il y a déjà 40 ans, suite aux grandes sécheresses du Sahel, et peut-être que l'enjeu aurait été moins fort aujourd'hui si on avait pris les choses en main un petit peu plus à temps. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard. Si on veut avancer, et je pense que Jean-Luc Chaud, qui connaît bien aussi le sujet concernant le Sahel, il faut travailler surtout pour privilégier un développement inclusif dans les territoires. On ne pourra pas refertiliser les terres et créer cet équilibre dont on vient de parler sans impliquer les agriculteurs, sans impliquer les populations qui sont au cœur de la maintenance justement des ressources naturelles dans les territoires. Et donc c'est de trouver aussi des solutions qui permettent de valoriser les productions agricoles, de créer des systèmes d'agriculture résilients. Alors aujourd'hui, il existe pas mal de solutions, mais c'est vrai que au Sahel, en particulier dans des régions, prenons l'exemple du Tchad avec la gomme arabique, les forêts naturelles de gomme arabique, d'acacia, produisent à la fois de la gomme qui crée des revenus monétaires en période de ce qu'on appelle de contre-saison, en dehors des cultures pluviales, et donc ont un effet aussi vertueux sur les terres puisque elles captent l'azote de l'air, séquestrent du carbone, et permettent aussi de restaurer la fertilité organique des terres. Donc c'est sur ces systèmes-là qu'il faut compter, et il faut aller beaucoup plus vite justement pour créer des projets de territoire et des projets qui sont réellement identifiés par les acteurs locaux, qui répondent, qui permettent de valoriser la ressource en eau et la ressource végétale et animale de ces territoires.
Et c'est fou quand je vous écoute, Rémi Emmerich, parce qu'on se dit que ben oui, c'est un peu l'enfance de l'art, et que depuis 15 ans, on n'a toujours pas réussi à faire ce que vous appelez quelque chose d'inclusif, c'est-à-dire à vraiment impliquer la population. Est-ce que ça veut dire, au fond, que le projet est trop gros, trop farouche, et que c'est difficile en fait d'en voir la finalité, y compris pour les populations? Est-ce que c'est peut-être le souci?
Non, je pense qu'au départ, le projet, il avait surtout une ambition politique et une vision pour le Sahel, donc je pense qu'il est quand même importante, mais on n'y a pas mis les ressources nécessaires, et donc justement, c'est depuis un peu le One Planet Summit qu'on a commencé à s'y intéresser et à y regarder de plus près. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'accélérer le projet et aussi de s'accorder avec les États, et c'est ce que l'on fait pour pouvoir justement mobiliser le plus grand nombre et aussi travailler aussi sur l'éducation des générations futures pour qu'elles puissent avoir conscience de la valeur du territoire sahélien et de l'ensemble des ressources qu'il procure.
Vous avez parlé du One Planet Summit, c'était effectivement il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un peu plus d'un an, et c'est 14 milliards qu'on a promis, je crois me souvenir, vous m'arrêterez si je me trompe, qu'à Glasgow, à la COP, pour le coup, la COP climat, Jeff Bezos a promis près d'un milliard. Donc est-ce que ça veut dire que maintenant, pour cette fameuse muraille verte, l'argument financier n'est plus un argument?
Oui, effectivement, l'argument financier, je pense, n'en est plus un, mais il faut aussi pouvoir permettre aux investisseurs d'investir dans des projets qui soient réellement durables, et ça, c'est le grand challenge pour les territoires sahéliens. C'est, je m'excuse de me répéter, mais réellement travailler sur ces projets territoires avec des visions à long terme qui renforcent la capacité économique des populations qui sont très pauvres. Hein. Il faut quand même, on est quand même dans des régions sur le plan de la sécurité où c'est compliqué, etc. Ouais. Donc c'est à la fois de travailler sur des solutions à très court terme dont pour pouvoir permettre aux populations de se nourrir et de mieux vivre, et en même temps de travailler sur des investissements à long terme. Donc ça, c'est un travail, on va dire, d'ingénierie sociale, locale, qui est continu. Parce que faut avoir aussi des visions sur 20 ou 30 ans au minimum.
Parce que je comprends qu'on parle de beaucoup de choses à la fois, en fonction du territoire, en fonction du pays, en fonction des besoins, en fonction des moyens. On parle de reforestation, vous avez parlé du Tchad, mais on parle de refertilisation. Est-ce qu'on parle aussi de stocker du carbone? Vous l'avez un petit peu évoqué, le sol, c'est la deuxième réserve après l'océan. Donc est-ce qu'on se dit que c'est tout ça, en fait, cette muraille, ou est-ce qu'il y a des priorités? Est-ce qu'il y a une forme de priorité, ou est-ce que, au contraire, ce sera effectivement aussi en fonction des moyens, des besoins et des capacités de chacun des pays?
En fait, il faut
11 pays, je le rappelle, c'est énorme.
Oui, c'est ça. Oui, il faut conduire de front un ensemble de challenges, c'est-à-dire recréer des conditions d'une agriculture viable, donc que les agriculteurs soient formés et puissent produire sur des systèmes agricoles résilients, et en même temps faire des investissements à long terme pour stocker du carbone, pour recréer de la matière, de la biomasse sur ces territoires qui sont très vastes. Hein. La région sahélienne, c'est la surface pratiquement des États-Unis. Et à peu près la même population, donc c'est énorme. Il y a aussi un énorme potentiel, et comme vous l'avez bien précisé, c'est pas complètement uniforme. Les problèmes sont à peu près les mêmes, mais les solutions ne sont pas uniformes.
Merci beaucoup Rémi Aymeric, je vous remercie vraiment. Avec plaisir. Votre ONG s'appelle SOS Sahel, donc dans cette région depuis fort longtemps, et vous êtes en route ou quasiment pour aller jusqu'à Abidjan. Jean-Luc Chotte, là-dessus, vous le connaissez très bien, ce fameux projet de muraille verte. J'ai envie de vous reposer la question, en fait, est-ce qu'au départ on n'a pas vu trop grand et que ça a été compliqué de mettre en place tous ces projets les uns à côté des autres dans une région qui est, on l'a rappelé à l'instant, terriblement grande?
C'est un magnifique projet, c'est une volonté de l'Union africaine et qu'on ne peut que saluer. Et si le levier qui a conduit à la mise en place de la Grande Muraille Verte est un levier de lutte contre la désertification des terres dans cette partie-là du monde, elle a aussi un enjeu de l'accord de Paris. C'est-à-dire, si on stocke du carbone dans les arbres ou dans les sols, on contribue. C'est la contribution de l'Afrique, pays peu émetteur, notamment cette partie-là, au climat, à l'équilibre du climat mondial. Donc c'est un enjeu majeur. Alors après, la complexité, bien évidemment, c'est très complexe. Les contextes socio-économiques sont pas équivalents entre Dakar et le Burkina, le Niger, Maradi ou l'Éthiopie et le Tchad. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est une approche territoriale avec les populations, et qu'il faut renforcer ces populations, qu'il faut apporter des connaissances nouvelles que la recherche est capable de produire. Et il faut, je dirais, à côté des trois cibles initiale de la Grande Muraille Verte, stocker du carbone, créer des emplois et restaurer des terres, il y a aussi la sécurité alimentaire, le bien-être des populations. Et donc c'est ça qui fait la complexité. Comment est-ce que l'on est capable de décrire, avant la mise en place de projets, la façon dont on va suivre les impacts de ces projets-là? Et là, la recherche travaille beaucoup sur ces aspects-là, et notamment le Comité scientifique français de la désertification, pour aider les bailleurs, pour qu'on puisse avoir, au fur et à mesure de la mise en œuvre des projets, dans une collaboration avec les bailleurs, mais aussi les populations locales, en disant « nous sommes sur la bonne voie, nous n'y sommes pas, donc il faut revoir, parce que cette partie-là du projet ne va pas ». Et ça, c'est majeur.
Résumé,
c'est qu'est-ce qu'un projet GMV? C'est pas uniquement c'est du carbone, lutter contre la dégradation des terres et créer des emplois, mais c'est aussi beaucoup plus que ça.
Et avec cette difficulté supplémentaire, et ce sera la fin, Jean-Luc Chotte, Rémi Aymeric l'a un peu évoqué, mais évidemment que c'est très compliqué. Quand le projet est né, il n'y avait pas de terrorisme dans cette zone-là. Aujourd'hui, en termes de sécurité, on parle évidemment de manière extrêmement différente. J'imagine que ça a dû créer un retard considérable.
Complètement. Nous avons publié un papier, le CSFD, qui est accessible sur le site du CSFD, où le premier paragraphe relate de ce qui a changé entre 2007 et aujourd'hui, la question de la stabilité et de la sécurité. Et à nouveau, la recherche examine les modalités de gouvernance, comment est-ce que l'on peut impliquer les populations dans cet environnement peu stable, où les États sont plus ou moins présents. Et donc, c'est effectivement...
Ah ben, on a perdu Jean-Luc Chotte, et alors c'est pas grave puisque c'était la fin, j'espère qu'il nous entend quand même pour qu'on le remercie, mais alors excellent timing cela dit pour que la ligne saute. Jean-Luc Chotte, directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, merci beaucoup, et c'est promis, on va aller suivre les conclusions de cette COP15 qui se passe à Abidjan, et d'ailleurs on n'en a pas tout à fait fini.
Le 18-20. Fabienne Synthès sur France Inter.
On n'a pas fini parce que la suite ce soir, c'est vraiment la suite de ce qu'on vient d'entendre avec une illustration très parlante. Ça se passe en Irak sur fond de désert, de tempête de sable et bien sûr d'appauvrissement. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logeni.
La ministre allemande de la Défense est au cœur d'une polémique pour avoir emprunté un hélicoptère de l'armée à des fins personnelles.
Le monde d'après, Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Un discours de la reine aujourd'hui sans la reine. Une Écosse et une Irlande du Nord traversées de poussées indépendantistes. Il y a du rififi au Royaume-Uni.
Allez, tout de suite, tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Il croise la route de Billie Eilish. I didn't change my number. C'est sur France Inter et dans Un jour dans le monde. I didn't change my number. I only changed the way I replied to. Laura said I should be nicer. But not to you. I love how you were mad at me. Text. Should've guessed that you would think I was upset. You're obsessed. Don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. I didn't change my number. I only changed who I believe in. You were easy on the eyes, eyes, eyes. But looks can be deceiving. I gotta work, I go to work. You don't deserve to feel so hurt. You got a lot of fucking nerve. I don't deserve. So don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean and take it out on you and your best friend too. I should have left when Drew said you were bad news. Le bruit du monde est en Irak ce soir et je vous le disais, il prolonge notre discussion d'il y a un tout petit instant, la COP 15 qui s'ouvre ce lundi, qui s'est ouverte lundi à Abidjan, donc hier, et cette lutte contre la désertification et la dégradation des sols. Tout cela prend tout son sens en Irak, où le désert grignote de plus en plus de territoire, où les tempêtes de poussière se sont multipliées ces dernières semaines de manière inédite, et vous allez l'entendre, ce ne sont pas les seules conséquences, le reste c'est Lucille Wasserman qui raconte.
Le vent souffle sur Bagdad. En quelques instants, la ville a complètement changé de visage, enveloppée dans une tempête de poussière et de sable. Tout est devenu orange, impossible de voir à plus de quelques mètres. Les habitants dehors plissent les yeux, tous, se secouent les cheveux. On dirait une scène sortie d'un film sur la fin du monde. Mais cela n'a rien de divertissant, car au même moment, des patients affluent à l'hôpital Kindi. Ces Irakiens rencontrent des problèmes respiratoires à cause des particules dans l'air. Le docteur Aya Sader, 30 ans, les prend en charge.
À cause de la tempête dehors, on va avoir beaucoup de patients avec des problèmes de suffocation aujourd'hui. La plupart d'entre eux ont besoin d'oxygène et d'une dilatation des poumons.
Derrière elle, une femme d'une soixantaine d'années se tient en tailleur sur l'un des lits du service. Elle plaque un masque d'oxygène sur son visage. Son mari à ses côtés ne cache pas son inquiétude.
Ma femme fait de l'asthme chronique de manière sévère. La semaine dernière, elle a failli mourir. Ils lui ont donné un traitement ici et ils ont dû la garder une semaine avec intraveineuse et tout un tas de médicaments.
Derrière les fenêtres du service, les arbres s'agitent dans tous les sens. La ville devient presque rouge. Le docteur Aya regarde la scène et commente.
Cette année, il y a bien plus de tempêtes que l'année dernière. C'est très fréquent. Le nombre de patients augmente en ce moment.
Au total, dans tout l'Irak, des milliers de personnes sont hospitalisées lors de ces épisodes météorologiques. S'ils deviennent de plus en plus fréquents, c'est parce que le désert gagne du terrain dans le pays. Salman Rahirala, un militant écologiste.
Le mois dernier, on a vu des tempêtes de sable, y compris dans des zones humides. Ça n'est jamais arrivé avant. Pourquoi ? À cause de la sécheresse. On vient de finir le mois d'avril et normalement en avril, on a un très bon niveau des eaux car la neige a fondu dans les montagnes et doit normalement venir à nous. Mais en ce moment, il n'y a pas d'eau.
Les pluies sont de plus en plus rares en Irak et les températures dépassent régulièrement les 50 degrés l'été, provoquant une évaporation des eaux plus rapide. L'Irak pourrait perdre 20% de ses ressources hydriques d'ici 2025, selon l'ONU. Mais les causes de ces pénuries sont aussi politiques. Car en amont des fleuves qui traversent le pays, d'immenses barrages ont été construits en Turquie et en Iran, retenant l'eau censée s'écouler en Irak. Ce militant n'est pas très optimiste quant à l'avenir.
Si rien n'est fait, il n'y aura plus d'espace vert, plus de maisons, plus d'eau potable. L'Irak va juste devenir un désert.
Le constat peut paraître alarmiste, mais dans les campagnes irakiennes, la transformation est déjà en cours. Les agriculteurs n'arrivent plus à arroser leurs terres, qui deviennent des zones arides, sèches et craquelées. C'est le cas à Youssoufia, l'une des zones agricoles situées au sud de Bagdad, où Moussab Ibrahim, un cultivateur de 60 ans, a perdu ses dernières plantations l'année dernière.
Voilà ce qui me reste de mes 2 hectares de terre, ces 2 citronniers. Et encore, ils sont morts l'an dernier. Les fruits sont encore attachés, mais ils vont tomber. On les laisse pour les regarder avec tristesse.
Il s'approche alors d'un canal censé irriguer les alentours. 3 enfants se jettent à l'eau pour se rafraîchir. Les températures atteignent déjà les 40 degrés en journée.
Vous voyez la ligne noire au-dessus de l'eau ? Le niveau devrait être là, 1,30 m plus haut que maintenant. Du coup, on a mis en place des pompes pour drainer les eaux souterraines. On n'a pas le choix. Le problème, c'est que ces eaux sont chargées de minéraux, donc ça tue aussi nos plantations.
Cet Irakien est en colère. Oui, le réchauffement climatique aggrave la situation en Irak. Mais pour lui, le gouvernement ne fait pas assez pression sur la Turquie et pourrait au moins rénover les systèmes d'irrigation qui datent du siècle dernier.
Si ça continue, ce sera juste impossible d'être agriculteur dans ce pays. Le métier est en train de mourir et tout le monde s'en fout. Ce métier qui apporte de la nourriture dans l'assiette des Irakiens.
Les autorités se défendent de ne pas avoir lancé plus de projets à cause de la succession de crises dans le pays. Mais tant que rien n'est entrepris, c'est la vie de 40 millions d'habitants qui se dégrade rapidement en Irak.
Lucille Wasserman pour le reportage. Merci beaucoup, vraiment, et à très très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est toute l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Legénie. Les télés américaines, Sébastien, sont en boucle depuis 10 jours, passionnées par cette évasion dont nous vous parlions ici même la semaine dernière et qui vient de se terminer tragiquement la nuit dernière.
Oui, c'est une cavale, vous l'avez dit, qui aura tenu tout le pays en haleine. L'histoire d'une romance, je vous le rappelle, entre un meurtrier et sa gardienne de prison, entre Casey White, multirécidiviste très dangereux, condamné à 75 ans de prison, et Vicky White, petite fonctionnaire modèle sans histoire jusqu'au 29 avril dernier. Et puis ce jour-là, elle parvient avec une facilité déconcertante à faire sortir Casey White qui purge sa peine de prison en Alabama. Et elle le fait monter dans sa propre voiture au nez et à la barbe de l'administration. Le shérif du comté que l'on entend là va aller jusqu'à proposer $25,000 en échange de toute information pouvant les faire arrêter. Il faut dire que leur cavale était très bien préparée. La fonctionnaire avait loué une voiture sous un faux nom, retiré $90,000 après la vente de sa maison, acheté des vêtements civils pour son compagnon de route. Les fuyards, dont on ne connaît pas exactement les rapports, vont réussir à semer la police jusqu'à hier. Des centaines de kilomètres parcourus, 4 États traversés, la police a bien cru un temps perdre leurs traces, mais une caméra de vidéosurveillance va donc finir par identifier leur pick-up dans une station de lavage de l'Indiana. Ils sont pris en chasse par les forces de l'ordre, une course-poursuite qui finit par un accident. Casey White, le meurtrier, se rend, mais pas sa gardienne et complice qui a décidé de se suicider, une balle dans la tête.
Mais quel triste épilogue. L'ONU, Sébastien, met la pression pour éviter une marée noire catastrophique en mer Rouge.
Oui, et là aussi c'est une histoire dont on vous a parlé ici, l'histoire du effet vaisseau Safer, un navire de 360 mètres de long, gorgé de pétrole, abandonné en pleine mer depuis 2015, peu de temps après le début de la guerre civile au Yémen. La coque prête à rompre à tout moment. L'ONU, mais aussi l'Europe, ne cesse depuis des mois de mettre en garde contre une menace de marée noire imminente.
All actors are accountable.
Dans ce clip vidéo, l'Union européenne explique que ça pourrait être l'une des pires catastrophes écologiques contemporaines. Plus d'un million de barils déversés à 6 km des côtes yéménites, 4 fois l'Exxon Valdez et au total 20 milliards de dollars nécessaires pour dépolluer. Eh bien, il y a 2 mois, les choses ont commencé à bouger. Les rebelles houthis qui contrôlent la région où se trouve le FSO Safer ont enfin accepté que le pétrole soit transféré sur un autre navire. Les opérations devaient débuter dans quelques jours, mais l'argent manque. L'ONU organise donc demain une conférence des donateurs décisive et espère récolter 80 millions de dollars.
Et puis, Sébastien, la ministre allemande de la Défense est en pleine tourmente.
Christine Lambrecht fait face à un vent de critique de l'opposition depuis ce matin, depuis les révélations d'un site web américain qui affirme que la ministre et son fils se sont rendus sur une île dans le Schleswig-Holstein, je vais y arriver, pour le week-end de Pâques, non pas par leurs propres moyens, mais en hélicoptère avec un cougar de l'armée allemande. La ministre revenait de visiter un bataillon dans la région. Le fils de la ministre a même posté sur Instagram une photo de lui dans l'hélicoptère. Madame Lambrecht a eu beau expliquer qu'elle avait payé la facture pour son fils, 5000 euros de l'heure. Les conservateurs s'en donnent à cœur joie. Le moment choisi pour les vacances de la ministre sur l'île de Sylt en pleine guerre en Ukraine, ses limites, disent-ils. La ministre, ajoute-t-il, devrait éviter de confondre la Luftwaffe avec la Lufthansa. Même les libéraux, membres de la coalition gouvernementale, demandent des clarifications. La ministre de la Défense que l'on entend là n'en est pas à sa première polémique. Christine Lambrecht avait déjà essuyé les sarcasmes de la presse et de l'opposition au début de la guerre en Ukraine en envoyant à Kiev 5000 casques militaires alors que le président ukrainien demandait des armes lourdes.
Ah bah dites donc, ça sent peut-être la démission. En tout cas vous, Sébastien, en revanche, on vous garde. Je vous dis donc à demain. Vous partez avec Gregory Porter, Revival sur France Inter et dans Un jour dans le monde. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. When you lift me high up, out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, 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 revival song. Revival. I try to find you. Lost my way, walk in the darkness in search of day.
Gregory Porter et Revival sur France Inter. Jean-Marc Fourella.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, à Londres, c'était aujourd'hui le traditionnel discours de la reine pour l'ouverture de la session parlementaire. Mais l'ambiance était bien morose, la reine n'était pas là et le Royaume-Uni n'est pas très uni si l'on en croit les résultats des dernières élections locales. Et c'est votre monde d'après.
Oui, dans Royaume-Uni, les deux mots désormais posent un peu question. On va commencer par Royaume. La scène tout à l'heure à midi et demi dans la chambre des Lords avait tout du symbole. L'hymne God Save the Queen, mais sans la Queen, la couronne toute seule posée tristement sur un coussin de velours rouge là où normalement trône la reine. Puis son fils, le prince Charles, en costume d'apparat de la marine, assis à la place du prince consort, là où siégeait son père décédé. Et c'est donc lui, Charles, qui a prononcé le traditionnel discours de rentrée. Les flonflons, les apparats, les couleurs chatoyantes de la chambre n'ont pas pu dissiper cette étrange sensation. L'absente était la plus présente. Elisabeth II, 96 ans, n'était donc pas là pour ce rendez-vous emblématique pour la première fois depuis 59 ans. C'était en 1963. Elle avait alors séché uniquement parce qu'elle était enceinte de son dernier fils, Edward. La reine est fatiguée, on le sait. Le palais reconnaît des problèmes de mobilité. Elle a annulé toutes ses garden parties de l'été prochain. Elle se ménage en vue des célébrations de son jubilé de platine. 70 ans sur le trône, début juin. L'image de la monarchie britannique est tellement associée à cette femme hors du commun que l'effacement progressif d'Elisabeth II interroge mécaniquement sur l'avenir du royaume. À désormais 73 ans, Charles apparaît par avance comme un souverain de transition. La succession sera difficile pour la monarchie la plus célèbre du monde.
Et puis, alors Jean-Marc, il y a aussi Uni dans Royaume-Uni, et là non plus, c'est pas terrible.
Ouais, les élections locales de la fin de la semaine dernière viennent d'en apporter la preuve. Le royaume est de moins en moins uni. Rappelons-le, le United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, c'est le nom complet, est composé de quatre nations, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Et depuis le Brexit, les deux dernières ont vu s'accentuer les forces centrifuges, autrement dit les envies de couper les ponts avec le royaume. En Irlande du Nord, d'abord, pour la première fois depuis la fin de la guerre civile il y a 24 ans, les nationalistes du Sinn Féin, partisans de la réunification des deux Irlandes, deviennent le premier parti, porté par une nouvelle génération très féminisée, sans lien avec les années du combat armé de l'IRA. Le Sinn Féin va choisir le nouveau Premier ministre nord-irlandais. L'évolution démographique contribue à cette mutation. Les catholiques nationalistes font plus d'enfants que les protestants unionistes pro-britanniques. Et en République d'Irlande, au sud, le Sinn Féin a également le vent en poupe. Il promet d'ici 5 ans un référendum sur la réunification. En Écosse, c'est encore plus net. Les indépendantistes du SNP, le Scottish National Party, ont encore progressé lors de ces mêmes élections locales. 453 élus. À eux seuls, ils ont presque autant d'élus que les deux grands partis britanniques réunis, les travaillistes et les conservateurs. La chef du SNP, Nicola Sturgeon, a mis ses équipes de juristes au travail pour proposer, là aussi, un nouveau référendum sur l'indépendance avant la fin de l'an prochain.
Alors Jean-Marc, il faut rassurer quand même les fans du Royaume-Uni. On n'est pas encore au bord de l'implosion, si ?
Oui, les fans comme notre technicien réalisateur Tristan Grattal, un grand amateur de Prince. Non, non, à court terme, oh my god, il va rien se passer. À court terme, c'est retour aux affaires courantes lors du discours de la reine, qui est en fait un discours de politique générale du gouvernement, simplement lu par le monarque. Le prince Charles a poliment égrené les 38 réformes promises par Boris Johnson. Le Premier ministre veut détourner l'attention des scandales, des échecs électoraux et des menaces pour le royaume, donc il promet plus de pouvoir d'achat, une meilleure éducation, un ordre public renforcé, etc. À court terme encore, les sécessions potentielles de l'Écosse et de l'Irlande du Nord sont loin d'être acquises. En Irlande du Nord, l'indépendance n'est souhaitée pour l'instant que par 30% des électeurs. En Écosse, un premier référendum en 2014 avait validé le maintien dans le royaume et le gouvernement de Londres refuse d'en autoriser un second. À court terme toujours, je vous le disais, les festivités du jubilé début juin vont redonner de la vigueur à la couronne, conforter les Britanniques dans leur conviction que leur monarchie constitutionnelle et parlementaire est le meilleur des régimes. Donc le Royaume-Uni n'est pas menacé à court terme. Mais à moyen terme, c'est une autre histoire. Il y a des fissures dans l'édifice sur l'unité, comme sur la monarchie. Les diamants sont peut-être éternels, le Royaume-Uni peut-être pas.
En voilà une jolie phrase, le monde d'après de Jean-Marc Four. Merci beaucoup, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, pour nous ça continue comme chaque soir. Le 18-20, deuxième heure, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal d'Hélène Philly, fidèle au poste, à tout de suite.